Bon, nous allons, je crois, commencer dès maintenant. Donc, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de recevoir mon collègue et ami Franck Fischbach, qui est professeur de philosophie à l'Université de Nice depuis cette année. Il était professeur de philosophie à l'Université de Toulouse Le Mirail pendant plusieurs années auparavant. Je suis particulièrement heureux de le recevoir pour son livre « Manifeste pour une philosophie sociale » qui est paru à La Découverte. Et dans la mesure où, justement, notamment, cette invitation tient place dans un ensemble de conférences qui ont lieu dans un cycle qui s'intitule « Travail, sexualité, migration ». TSM, et qui propose de réfléchir d'un point de vue critique sur les questions de classe, de genre et de race. Autrement dit, qui propose justement de développer toute une série d'analyses à l'intersection du social et du vital, dans une perspective qui se veut explicitement du côté de la philosophie sociale. Donc, ta venue tombe très bien. Alors, je dis juste un petit mot sur le parcours théorique de Franck Fischbach. Franck Fischbach a commencé, en quelque sorte, ses premiers travaux en philosophie revisitant d'une manière très, très inédite un moment de l'histoire de la philosophie allemande, l'idéalisme, en particulier celui de Schelling et de Hegel, dont il a contribué à proposer des analyses très, très neuves. Et parallèlement, ou presque, il s'est intéressé, le premier en France, en philosophie, à la question de la reconnaissance, puisqu'il a proposé un ouvrage aux Presses universitaires de France sur le concept de reconnaissance et sur une relecture de Fichte d'un côté et de Hegel de l'autre côté, dans une perspective qui était déjà à ce moment-là une perspective de confrontation avec les théories contemporaines de la reconnaissance, en particulier celle de Axel Honneth, dont il sera sûrement question aujourd'hui. Alors je dirais que c'est cette confrontation, cette jonction de ces deux types de travaux, d'une part sur l'histoire de la philosophie allemande, d'autre part donc sur le versant de l'idéalisme et d'autre part sur un versant peut-être plus social, que Franck Fischbach a continué à explorer en proposant plusieurs ouvrages sur ou autour de Marx, consacrés à la question de la production, ouvrages qui manifestaient un intérêt encore plus accru pour les questions de philosophie sociale. Et ce sont ces questions de philosophie sociale qui sont justement reprises dans un manifeste, car il s'agit bien d'un manifeste, pour une philosophie sociale. Il y a donc en quelque sorte un double pour dans ce titre, le pour du manifeste et le pour du manifeste pour la philosophie sociale, qui d'emblée campe le ton et le sens du texte de Franck Fischbach, puisqu'il s'agit d'une défense et illustration de la philosophie sociale en terre, entre guillemets, française, entre guillemets, puisque le point de départ de l'analyse de Franck Fischbach consiste justement dans un diagnostic portant sur le relatif effacement de l'idée de philosophie sociale, ou sinon de l'idée du moins de l'institutionnalisation de la philosophie sociale en France, comparé par exemple à ce qui se passe en Allemagne, où la notion de Sozialphilosophie a depuis longtemps connu un rôle, a joué depuis longtemps un rôle prépondérant, et a depuis longtemps bénéficié d'une institutionnalisation aussi reconnue. Donc il s'agit justement, dans le travail de Franck, de procéder, je crois, à plusieurs points d'analyse. D'une part, une enquête historique, une archéologie de l'origine de la philosophie sociale. C'est cette archéologie qui ouvre le texte dans son chapitre premier. Dans cette archéologie, il s'agit de revenir sur les raisons de l'effacement de la philosophie sociale en France. Ça, c'est un premier niveau de l'analyse, le niveau historique. À ce premier niveau succède un second niveau qu'on pourrait qualifier de normatif, dans la mesure où Frank Fischbach essaie de proposer une distinction de type normatif entre la philosophie sociale d'un côté et la philosophie politique de l'autre côté. Cette distinction est d'ailleurs peut d'ailleurs être au service déjà de l'enquête historique, puisque c'est précisément un certain primat d'une certaine philosophie politique, selon Franck, qui a contribué à un effacement durable de la philosophie sociale, de telle sorte que revenir en appeler à la philosophie sociale aujourd'hui semble devoir justement impliquer une lutte contre une certaine forme de philosophie politique ou contre un certain monopole de la question sociale ou de l'effacement de la question sociale dans la philosophie politique. Ces deux enquêtes étant posées, l'ouvrage s'oriente vers une description des caractéristiques de la philosophie sociale dans un troisième temps, menée à partir d'éléments qui sont prépondérants et que Franck rappelle, mais il le fera sûrement tout à l'heure, donc je vais lui laisser la parole dans un instant, mais il identifie un certain nombre de matrices qui permettent à la philosophie sociale de se développer comme philosophie sociale. Puis, je dirais, dans un dernier temps de l'ouvrage, constitué par les chapitres 4 et 5, il en résulte une ouverture peut-être à deux manières de penser le social qui seraient au fond en jeu. D'une part, dans ce qui pourrait être authentiquement une philosophie sociale, alors s'agit-il ou non d'une fondation du social et en quel sens, ça tu nous le diras, je pense. Et en tout cas, cette manière philosophique de penser le social se distingue, tu insistes vigoureusement à plusieurs reprises sur ce point, de l'usage, pour ne pas dire du mésusage, du social dans la langue quotidienne ou dans une certaine langue de l'assistance ou dans une certaine langue pseudo-sociologique qui consiste à penser le social selon une dimension purement thérapeutique. Lorsque, par exemple, on parle de malaise dans le social ou d'autres expressions qui interviennent et qui font mention à la notion de social, par exemple, pourquoi pas la référence à la fracture sociale, puisque sous nos pieds, la fracture est en train de se développer et de s'amplifier. Alors, ceci te conduit, en conclusion du livre, à porter une deuxième analyse comparative après les relations entre philosophie sociale et philosophie politique, une deuxième analyse comparative que tu réalises entre philosophie et sociologie, ou entre philosophie et critique sociale. Et ici, bien sûr, la jonction est beaucoup plus étroite entre philosophie sociale et sociologie qu'elle ne l'est entre philosophie sociale et philosophie politique. Donc là, je crois, me semble tracer le sens de ton parcours. La défense de la philosophie sociale se confronte nécessairement à la sociologie, non pas pour y perdre son statut de philosophie, mais pour y préciser ses propres objets et ses propres démarches, de telle sorte qu'alors, ce qui est en jeu dans la philosophie sociale, c'est peut-être, et bon, je vais te donner la parole sur ce point-là notamment, c'est peut-être justement quelque chose comme un point de vue normatif qu'il faut défendre et qui serait le propre de la philosophie sociale, qui serait au fond de prendre le point de vue des dominés, des subalternes, termes qui reviennent souvent dans ton propos et qui permettent de donner toute sa signification à la philosophie sociale, mais ce qui suppose justement que la philosophie sociale soit une philosophie d'allure normative qui interroge les contradictions entre ce qui est et ce qui devrait être, ou entre ce qui est vécu comme aliénant et ce qui pourrait être vécu comme non aliénant, ce qui permet du même coup aussi de revisiter toute une série de concepts issus de la tradition marxiste, comme celui notamment d'aliénation, qui joue un rôle central dans ton propre travail. Voilà en quelques mots le point de départ à cette discussion. Je te laisse tout de suite la parole pour présenter ton propre travail.
Merci Guillaume pour cette présentation extrêmement claire et précise qui me laisse peu de choses à dire. Enfin, après, on peut en discuter, mais pour ce qui est de la présentation, tu l'as parfaitement réalisé. Alors, je peux peut-être ajouter quelques éléments, d'abord de l'ordre des motivations qui ont pu être les miennes et qui m'ont porté à l'écriture de ce livre. Il y a presque un aspect initialement, je dirais presque biographique, qui renvoie à l'atmosphère philosophique dans laquelle moi-même et puis ceux de la même génération que moi, disons ceux qui sont nés après 68 ou juste après ou autour, l'atmosphère dans laquelle donc cette génération-là a été formée à la philosophie, disons dans le courant des années 80. Hein. Et dans ces années, disons 85-95, il y avait un retour dans l'université, un retour à la philosophie politique. Hein. C'était un moment de résurrection quasiment de la philosophie politique classique et de ses principaux concepts. Et cela, alors évidemment, à l'époque, étant apprenti ou futur professeur de philosophie, je ne pouvais me rendre compte de tous les tenants et aboutissants de ce phénomène, mais c'était tout simplement parce qu'une génération, celle de ceux qui étaient nos maîtres à l'époque, qui avaient 40-45 ans, réglait ses comptes avec une période passée, mais pas depuis très longtemps, et durant laquelle les sciences sociales, de manière générale, avaient joué un rôle dominant et un rôle déterminant, tandis que, du côté de la philosophie, la tradition marxiste occupait encore une place déterminante. Hein. Donc il s'est agi pour beaucoup, dans les années 80, de sortir de cette situation de prédominance des sciences sociales et de présence encore marquée de l'héritage marxiste. Et c'est ce qui fait que moi, personnellement, en tout cas, j'ai été formé dans ce retour à la philosophie politique. Et donc, maintenant que, avec donc 20 ans de recul, un peu plus, je me suis demandé ce qu'il en était advenu de ce retour à la philosophie politique classique, hein, dans lequel une partie de ma formation, en tout cas, s'était faite. Et avec le recul, je me suis demandé si c'était pas quand même aussi politiquement un phénomène qui a marqué une forme de restauration. Hein. C'était pas seulement une renaissance de la philosophie politique, c'était aussi une restauration de la philosophie politique, et j'emploie sciemment le mot, avec sa connotation politique et idéologique. Hein. Il s'agissait de restaurer quelque chose contre ce qui avait eu lieu avant. Et tout cela nous a placé dans une atmosphère au sein, en tout cas, de la pensée politique de l'époque, qui était, à mon sens, une atmosphère de restauration idéologique, contre laquelle, en un sens, je réagis, moi, maintenant, ou à laquelle je réagis maintenant, et notamment dans cet ouvrage. Je ne suis évidemment pas le seul, d'ailleurs, il y a un certain nombre de grands témoins bien plus âgés que moi et qui ont traversé d'autres, de bien plus nombreuses périodes ou cycles de la pensée que moi, qui jugent aussi cette période des années 80-90 comme une période de restauration. Hein. Je pense par exemple à Rancière, qui le dit exactement dans ces termes-là. D'ailleurs, je n'avais pas encore lu au moment où j'écrivais les textes où il le dit. Je l'ai lu récemment dans des entretiens récents. Hein. Également sous la plume d'Abinsour, par exemple, où là aussi, après coup, j'ai vu que le diagnostic était aussi celui d'un mouvement de restauration de la philosophie politique dans les années 80 qui a été au service d'une forme de conservatisme politique. Hein. Et donc c'est contre cela que je réagis en partie dans ce livre. Donc ça, c'est l'arrière-plan, si vous voulez, presque biographique hein, de l'ouvrage. Bon, ensuite, cette fois-ci dans mes propres travaux, et notamment ceux qui ont porté sur la pensée de Axel Honneth, dont parlait tout à l'heure Guillaume, j'ai très souvent rencontré l'expression, sous la plume de Axel Honneth, de philosophie sociale, de sociale philosophie, qu'il utilise comme allant quasiment de soi, même s'il entreprend aussi d'en repréciser le concept. Mais en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que bon, pendant très longtemps en Allemagne, on savait ce que c'était, la philosophie sociale. Et puis on a un petit peu, le domaine indiqué par cette philosophie sociale s'est un petit peu brouillé, et donc il entreprend de repréciser les choses, et il fournit une définition de la philosophie sociale. Vous trouverez ça notamment dans un recueil de ses textes paru en français à la Découverte, sous le titre « La société du mépris ». Et il y a là un texte important sur la philosophie sociale, dans lequel Honneth donne cette définition de la philosophie sociale comme d'une philosophie qui fait le diagnostic des pathologies sociales. Donc à partir de cette définition de Honneth, ça a été un peu le point de départ. Je me suis demandé si... d'une part, si l'on pouvait reconstruire une telle tradition de philosophie sociale, est-ce qu'il en existe réellement une tradition, et si oui, où prend-elle ses sources, où a-t-elle ses racines, au-delà de la question purement historique, ce type de philosophie a-t-il un intérêt pour nous aujourd'hui, ou peut-il avoir une actualité pour nous aujourd'hui? Et c'est dans ce travail-là que je me suis rendu compte qu'il y avait ce dont Guillaume parlait tout à l'heure, une différence notable entre l'Allemagne et la France, dans le fait que cette différence consistant en ce que, effectivement, on sait beaucoup mieux en Allemagne ce que c'est que la philosophie sociale, alors qu'en France, c'est une expression un petit peu, quand on l'emploie, ça fait un peu une expression un peu vieillotte, ça a presque un peu un côté Troisième République, ça sent un petit peu sa période hussard noir de la République, voire même encore plus désuet, ça pourrait presque nous ramener à Auguste Comte, ou voire à Saint-Simon, mais qui sont effectivement, de fait, pour moi, des fondateurs de cette forme-là de pensée philosophique. Et puis par ailleurs, c'est une expression qui en France a très mauvaise presse, notamment du côté des sociologues. Quand vous voyez chez des gens très différents, les uns des autres, il y a Augien par exemple, ou Boltanski d'autre part, ils utilisent l'expression de philosophie sociale de manière extrêmement péjorative. C'est vraiment, pour eux, ça n'est pas de la sociologie, c'est à peine de la philosophie, c'est une sorte de journalisme en mettant les choses au mieux. Ou alors, si c'est, bon, ça peut être de l'essayisme, vous voyez, de l'essayisme sur la société, des idées générales sur la société, mais rien de précis, et puis surtout rien qui soit fondé empiriquement sur des enquêtes sociologiques sérieuses, ou alors c'est carrément de l'idéologie. Par philosophie sociale, entendons quelque chose comme l'idéologie. On le voit d'ailleurs dans un texte de Bourdieu et Boltanski, réédité récemment par Boltanski, dans lequel l'expression de philosophie sociale est strictement synonyme de celle d'idéologie. Il parle par exemple de la philosophie sociale de la couche dominante des classes dominantes, et par philosophie sociale, il entend l'idéologie de cette classe sociale. Donc j'ai essayé de relégitimer dans l'espace français ou francophone ce terme, ce concept de philosophie sociale. J'ai aussi tenté quelque chose à quoi Guillaume faisait également allusion tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler une sorte de critériologie de la philosophie sociale, c'est-à-dire à quoi peut-on... quels sont les critères qui peuvent permettre d'identifier la philosophie sociale comme telle. Et donc j'en ai proposé quelques-uns que je peux rapidement résumer, sur lesquels on peut ensuite revenir dans une discussion. Le premier critère, c'est celui d'une distinction conceptuelle entre la société et l'État, pour le dire la manière la plus générale possible. Or, cette distinction est d'origine relativement récente. Elle se fait à la fin du XVIIIe siècle, dans plusieurs aires linguistiques européennes. C'est d'ailleurs un des traits de la philosophie sociale aussi, à mes yeux, c'est qu'elle est une tradition essentiellement européenne, ayant au moins trois sources majeures dans les Lumières anglo-écossaises, dans la philosophie française saint-simonienne et post-saint-simonienne, et dans le hegelianisme en Allemagne. Donc le premier critère, c'est la position d'une distinction entre la société et l'État, qui est d'ailleurs le préalable à une conceptualisation ultérieure du social comme tel. Cette distinction, elle est très fortement affirmée, par exemple, évidemment, chez Hegel, dans les principes de la philosophie du droit, à travers l'élaboration du concept de société civile, qu'il emprunte d'ailleurs lui-même, ou qu'il hérite très largement d'Angleterre et d'Écosse. Donc première chose, la distinction de la société et de l'État. Un deuxième critère serait le suivant. Une philosophie sociale est une philosophie qui se conçoit elle-même comme une pratique théorique dans un environnement social, dans une société donnée. C'est un type de philosophie qui a conscience de sa propre inscription dans la société. C'est un type de philosophie donc qui ne prétend pas s'extraire de son époque, de son temps, qui ne prétend pas le juger de haut, pour reprendre des expressions qui sont d'ailleurs celles aussi de Hegel dans la préface au principe de la philosophie du droit. C'est un type de philosophie donc qui se sait inscrite dans un temps et qui ne prétend pas s'en affranchir, ou qui ne prétend pas pouvoir même s'en affranchir. Le philosophe est fils de son temps, comme tous les autres hommes, selon la formule de Hegel. Un troisième critère serait celui consistant en ce qu'il s'agit d'une pratique de la philosophie, d'un type de philosophie, qui entreprend, c'est même généralement ce par quoi elle commence, qui entreprend le diagnostic de son temps. C'est la conséquence, d'ailleurs, du précédent critère. Il faut d'abord avoir conscience que l'on philosophe dans un temps donné, dans une société donnée, à un certain moment de son histoire, pour pouvoir ensuite entreprendre de faire le diagnostic de cette époque, c'est-à-dire entreprendre de déterminer ce que ce moment historique que l'on vit a de particulier, ce qu'il a de propre, de caractéristique, qui constitue une nouveauté par rapport à des périodes historiques antérieures. Donc l'entreprise donc d'un diagnostic du temps consistant à essayer de savoir, de déterminer ce qui se passe maintenant et qui ne se passait pas avant. Donc là, cette entreprise de diagnostic, Michel Foucault, dans un texte célèbre, a considéré que le premier à l'avoir véritablement fait est Kant, à travers son article Réponse à la question Qu'est-ce que les Lumières, lorsqu'il définit le propre de son époque comme étant précisément l'époque de l'accès de l'humanité à la majorité. Et ensuite, à partir de là, les philosophes n'ont plus, un certain nombre d'entre eux ont constamment repris cette tâche de diagnostiquer leur temps. Ça se trouve après Kant chez Fichte, par exemple, ou chez Hegel, puis plus tard chez Marx, chez Nietzsche aussi, bien sûr, et beaucoup d'autres. Donc ça c'était le troisième caractère important, à mon sens décisif, l'entreprise de diagnostiquer son temps. Ensuite, quatrième critère, qui là encore est la suite du précédent, en tout cas est impliqué par le précédent, c'est de savoir quel type de diagnostic est fait. Et là, je pense que la philosophie sociale se spécifie par le fait que ce qu'elle cherche à déterminer de particulier dans le temps ou l'époque qu'elle diagnostique, c'est en quelque sorte ce qui n'y va pas. ce qui constitue un dysfonctionnement ou ce que Axel Honneth propose d'appeler une pathologie. Hein, quelque chose qui constitue un frein ou un empêchement, hein, à un processus qui en lui-même, à l'accomplissement d'un processus qui en lui-même se pense comme, par ailleurs, comme un processus de libération ou d'émancipation historique de l'humanité. Donc le diagnostic ici, il se spécifie comme un diagnostic portant sur ce qui, hein, dans l'époque présente, dans la société telle qu'elle est, fait obstacle à un tel processus de libération ou d'émancipation. Alors ensuite, ça peut prendre des formes extrêmement diverses selon les traditions et selon les auteurs. Hein. Enfin, un dernier critère de distinction d'une philosophie sociale me semble être le fait que la philosophie sociale engendre des discours philosophiques qui se conçoivent comme ayant des destinataires dans la société, c'est-à-dire comme des discours philosophiques qui cherchent à atteindre un certain nombre d'agents sociaux, hein, qui ne sont pas philosophes, hein, qui sont des acteurs de la société, que le philosophe social ou la philosophie sociale estime être les destinataires de son discours philosophique. Hein. Là aussi, il y a une grande variété de possibilités. Quelques destinataires sont plus célèbres que d'autres dans la tradition, notamment les prolétaires. Vous allez dire que je ne parle que de Marx, mais là je pensais à Comte, hein, qui lui aussi s'adressait à ceux qu'il appelait les prolétaires. Hein, mais bref, la désignation, hein, dans la société d'acteurs ou d'agents sociaux susceptibles d'être atteint par le discours de la philosophie politique, de la philosophie sociale, excusez-moi, voire même susceptible de le relayer, hein, de le relayer et d'en faire quelque chose à travers leur ou dans leur propre activité sociale. Hein. Voilà, disons brièvement résumé, hein, les critères que j'ai proposés comme des critères d'identification de cette tradition de philosophie sociale. Alors ensuite, je finirai là-dessus pour ne pas non plus prendre trop de temps. J'ai en effet, comme Guillaume le disait aussi tout à l'heure, essayé de situer la philosophie sociale par rapport à la philosophie politique. Hein. Donc comme je le disais tout à l'heure en introduction, le rapport, vous l'avez compris, est assez polémique. Hein, mais je voudrais le préciser, indépendamment de cet aspect polémique. Je ne voudrais pas qu'on pense que la philosophie sociale telle que je la conçois est indifférente à la politique, hein, ou est une sorte de philosophie apolitique, les choses de ce genre. Absolument pas. Hein. Simplement, déjà, le point de départ, c'est que c'est une démarche philosophique qui ne commence pas par séparer, comme deux choses existant indépendamment l'une de l'autre, hein, le social et la politique. Quand on commence par les séparer, on est bien en peine ensuite de recoller les morceaux. Donc le point de départ, ça n'est pas la séparation de l'un et de l'autre. Mais au contraire, c'est l'idée selon laquelle ce qui est intéressant, hein, c'est ce qui se passe lorsque des processus sociaux se politisent. Et c'est ça qui intéresse le regard du représentant, du praticien de philosophie sociale. Hein. C'est le moment où un certain nombre de phénomènes sociaux, hein, prennent une coloration politique. Et il s'agit de comprendre comment ça se produit et qu'est-ce que ça signifie que des processus sociaux en viennent à se politiser. Comment comprendre cela? Ça, c'est une question de philosophie sociale. Donc ça prouve, si vous voulez, qu'il ne s'agit en aucun cas d'être indifférent à la politique, hein, ou de pratiquer un type de philosophie qui, pour être sociale, ne serait pas, ou parce qu'elle serait sociale, ne serait pas politique, ou laisserait la politique de côté. Absolument pas. Hein. Il n'y a guère de tradition philosophique qui ait davantage pris des partis politiques que les représentants de la philosophie sociale. C'est même une caractéristique hein, des principaux représentants de la philosophie sociale, c'est que c'est généralement auteurs qui interviennent au sein d'un contexte historique dont on a vu qu'ils font le diagnostic et qui, au sein de ce contexte historique, prennent parti pour des forces sociales contre d'autres. Donc qui ne prétendent absolument pas à la neutralité ou à l'équilibre entre les forces sociales en présence. Donc je voulais simplement préciser ce point pour qu'on ne pense pas qu'il s'agit d'une philosophie apolitique. Au contraire, bien au contraire. Et je prends pour exemple, si vous voulez, parmi tant d'autres, mais on peut penser à un texte de Marx, par exemple, du jeune Marx, en l'occurrence c'est autour de 1843, dans la fameuse correspondance avec Ruge, dans un même texte, à quelques lignes de distance, il peut à la fois dire que la vie sociale est infiniment plus vaste que la vie politique, la vie sociale est infiniment plus vaste que la vie politique, et trois lignes plus bas, dire qu'il ne faut surtout pas se désintéresser de la politique, surtout pas désinvestir le champ politique, et que l'affirmation selon laquelle la vie sociale est bien plus vaste que la vie politique doit s'accompagner en même temps de la compréhension de ce que c'est qu'un acte politique. Et c'est l'expression qu'il emploie. Un acte politique, c'est justement un acte qui bouleverse le social ou qui le transforme. On a là une articulation, si vous voulez, du social et de la politique, non pas compris comme deux éléments juxtaposés, mais au contraire comme deux éléments inséparables, au sens où ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment des processus sociaux en viennent à tel ou tel moment, et il s'agit de voir de quelle manière et sous quelle forme, se traduire en des actes politiques qui sont des actes de transformation sociale. Voilà ce que je peux dire, disons, à titre introductif, et en attendant la discussion.
Merci beaucoup, Franck. Je vais peut-être te poser deux, trois petites questions avant de lancer la discussion. Avec la salle, j'aurais aimé que tu précises le type de référence à la philosophie sociale que tu envisages, en particulier dans son si on pense justement à la fondation de la philosophie sociale produite par Axel Honneth, qui propose une théorie sociale articulée au diagnostic, tu l'as rappelé, des pathologies sociales, lesquelles sont interprétées largement en termes de déni de reconnaissance, et donc ouvrant les luttes pour la reconnaissance. Je voulais savoir quelle place tu faisais, en particulier aux injustices, disons, distributives. C'est celle que, justement, par exemple, Nancy Fraser avait essayé de situer à côté des injustices symboliques liées au déni de reconnaissance. Ce qui me conduit, du coup, à poser la question, au fond, du caractère unilatéral ou multiple des pathologies sociales. Est-ce qu'il y a différents types de pathologies sociales qui sont à l'œuvre, qui seraient tantôt des pathologies, disons, du côté des injustices de distribution, ou tantôt d'autre côté, du côté des injustices de reconnaissance, ou est-ce qu'il faut considérer en quelque sorte un méta-concept de pathologie sociale qui articulerait ces deux dimensions?
Oui, c'est une vaste question.
Oui, mais...
En ce qui me concerne, oui.
La première question, en fait, plus explicite, oui. C'était le rapport à ton rapport à Honneth. Est-ce que tu envisages, en quelque sorte, ton plaidoyer pour la philosophie sociale comme une extension du type de philosophie sociale que propose Honneth, ou est-ce que tu proposes des rectifications sur quel point?
Oui. Comme tu l'as peut-être remarqué, il est assez peu question de reconnaissance. Mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que je par rapport à Honneth, je ne limite pas les luttes sociales à la seule dimension, à la seule dimension de la reconnaissance ou de la quête de reconnaissance. Et je ne limite pas le concept de pathologie à l'absence de reconnaissance. Ça, c'est pour ça que le terme en est assez absent, finalement. Mmh. Alors, je ne fais pas ça, mais en un sens, je pars d'un concept plus large qui englobe parmi d'autres choses les dénis de reconnaissance ou les formes de déni de reconnaissance. L'idée dont je pars et qui me semble être une idée enracinée dans la tradition de la philosophie sociale, c'est l'idée selon laquelle les individus vont vers la vie sociale avec un horizon d'attente et qui me semble être un horizon portant sur l'attente d'un accomplissement. Nous sommes des êtres sociaux par nature et nous attendons précisément de notre propre socialisation qu'elle soit pour nous un accroissement de notre être, qu'elle soit l'occasion d'une affirmation de nous-mêmes. Et il y a pathologie, me semble-t-il, lorsque ces attentes-là, dont le remplissement ne peut venir que de la part que l'on prend à la vie sociale, lorsque ces attentes sont déçues. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, lorsque, au lieu de cet accroissement ou accomplissement de l'existence que l'on attend de la participation à la vie sociale, lorsqu'on en obtient au contraire des formes de vie mutilées, réduites, diminuées, avec toutes les formes que cette diminution de la vie ou cette mutilation de l'existence peut prendre, alors là, il y a déception des attentes et il y a éventuellement... Alors là, il peut se passer plusieurs choses à ce moment-là. Il peut se passer rien du tout, au sens où la mutilation peut être telle qu'on est renvoyé à une forme d'impuissance complète sans réaction. Ou alors, il peut aussi parfois se produire un phénomène d'entrée en lutte, mais dont le sens va au-delà de la seule attente de reconnaissance, me semble-t-il. C'est une attente d'accomplissement de soi dans la participation à la vie sociale avec les autres. Donc ces pathologies, ces formes de vie diminuées, elles peuvent prendre la forme de l'injustice économique. Mais pas seulement, et peut-être même pas prioritairement, à mon sens. Ça en fait partie, mais ça me semble, c'est pas forcément l'élément décisif, et c'est peut-être pas non plus l'élément qui conduit à l'engagement dans une forme de lutte sociale. Voilà.
Et donc, si je te suis bien, ça signifie que le sens du temps est fondamental dans la possibilité de proposer le diagnostic d'une pathologie sociale, au moins pour l'acteur, puisque si c'est l'attente déçue qui constitue en quelque sorte le révélateur d'une morsure, d'une pathologie sociale sur une existence. Alors, effectivement, c'est une façon aussi d'affirmer que c'est dans la référence au temps, en particulier à l'avenir, que se joue la possibilité d'estimer sa chance sociale et sa forme de vie, ce qui serait une manière aussi, au fond, de recroiser certains énoncés de la sociologie de Bourdieu, par exemple, sur le rapport à l'avenir, la question des chances sociales.
Tout à fait, oui. Oui, c'est un aspect auquel que j'ai pas explicitement abordé, mais cette question du temps m'intéresse aussi
d'ailleurs.
Mais je l'avais pas envisagé sous cet angle. Mais oui, évidemment, ça veut dire que si on va vers la vie sociale avec un horizon d'attente qui est un horizon concernant l'attente d'un accomplissement, d'une plus grande affirmation de soi. D'une réalisation de soi, effectivement, ça signifie qu'on y va avec une perspective d'avenir, d'un avenir ouvert, et non pas clos, et qui ne soit pas non plus de l'ordre de la répétition de l'identique, ou de la reconduite à l'identique de ce qui est. Non, c'est effectivement une perspective d'ouverture vers un avenir qu'on pense être ou qu'on espère pouvoir être un avenir d'accomplissement.
Et alors j'avais une dernière question avant de vous laisser poser vos questions. L'analyse que tu fais, qui est très convaincante des différentes formes de domination des différentes formes d'aliénation. Il me semble que tu l'as conduit, tu le dis à plusieurs reprises de manière très, très éloquente, tu l'as conduit aussi par référence à un concept fort de la vie sociale. Donc, autrement dit, la vie sociale n'est pas appréhendée uniquement comme ce qui mutile les existences, puisque justement, elle peut aussi les réaliser. Et à ce moment-là, quand se réalise la vie sociale positivement, il me semble que le concept qui intervient, c'est celui de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'affirmation d'une solidarité sociale comme constitutive de la vie sociale. Et c'est aussi cette référence à la solidarité qui est d'une certaine façon annulée ou diminuée dans les pathologies sociales. Donc il me semble que tes deux concepts, en quelque sorte, qui organisent cette bipolarité de la vie sociale, sont ceux de solidarité d'un côté et de domination de l'autre. Et alors ma question a été, du même coup, effectivement, tu reprends à plusieurs moments une histoire de la solidarité, la notion de solidarité. Du coup, effectivement, est-ce que tu serais d'accord pour dire que le fond, en quelque sorte, ou en tout cas l'une des finalités de la vie sociale réussie, ce serait la possibilité du développement de la solidarité et ce qui serait une autre manière de renouer avec l'idée sociale aussi, qu'une vie n'est pas seulement constituée d'un sujet dans son corps et dans son esprit, individu séparé des autres, mais qu'au contraire, jusque dans l'idée de la réussite, il y a la possibilité d'être avec les autres dans un horizon d'entente qui est celui de solidarité.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Deux remarques là, par rapport à ce que tu me dis ou me demandes. D'abord, pour ce qui est du concept de domination, c'est vrai que je l'utilise souvent, mais j'essaye, dans l'usage que j'en fais, justement de ne pas en faire un concept strictement politique. C'est-à-dire, pour moi, la domination, c'est même pas d'abord un concept politique. Je veux dire par là que la pauvreté, la misère, l'exclusion, la désaffiliation, l'invisibilité, pour employer un concept à toi, sont des expériences de la domination, hein, même si ce n'est pas l'expérience d'un pouvoir qui s'exerce. Hein, si on réduit la domination à l'exercice d'un pouvoir, et si en ce sens on a une approche, à mon sens, abstraitement politique de la domination en termes de pouvoir, on manque le contenu d'expérience, hein, le contenu vécu d'expérience de ce que c'est que la domination. Et la domination, c'est d'abord ces expériences négatives du social, hein, qui produisent de la désaffiliation, de l'exclusion, de la misère ou de la pauvreté. Hein. Alors pour ce qui est ensuite de la solidarité, oui, moi je suis, enfin si vous, là aussi, prenons les choses en amont, hein, l'idée de base qui me semble essentielle à la philosophie sociale, et c'est quand même une très très vieille idée, hein, c'est l'idée d'après laquelle nous sommes essentiellement des êtres de rapport, hein, donc pas ces individus isolés les uns les autres, abstraitement isolés les uns des autres, comme des individus parfaitement rationnels. On se demande d'ailleurs comment cette rationalité leur vient et d'où est capable de décider dans leur fort intérieur des fins qui doivent être les leurs et des moyens adéquats à la réalisation de ces fins. Bref, cet individu rationnel, hein, supposé être l'acteur politique par excellence, me semble être le résultat d'une construction complètement théorique et qui ne correspond pas du tout à la manière dont dont nous vivons et expérimentons notre existence sociale. De fait, nous l'expérimentons d'abord sous la forme de la dépendance à l'égard des autres. Et les premières expériences du social que nous fassions sont des expériences dès l'enfance, de la dépendance essentielle où nous sommes d'autrui. Et cela parce que nous sommes consubstantiellement des êtres de rapport. Donc ça veut dire que dans la sphère des rapports, nous pouvons à la fois expérimenter l'accomplissement, hein, l'accomplissement de soi, la réalisation de soi, mais nous sommes aussi vulnérables précisément par le rapport qui nous est, hein, par l'intermédiaire de cette sphère des rapports sociaux. C'est aussi de là que peuvent venir les blessures et certainement les plus considérables et les plus destructrices. Hein. Donc c'est... Je suis d'accord, hein, pour formuler comme tu le faisais, mettre au centre cette idée de rapports, hein, sociaux entre des individus qui sont constitués par les rapports qu'ils nouent les uns avec les autres et qui ne leur préexistent pas, hein, donc des individus constitués par ces rapports et qui, dans ces rapports, peuvent faire l'expérience soit positive de ces rapports sous la forme, par exemple, de la solidarité, ou qui peuvent en faire une expérience négative et même parfois destructrice sous la forme, sous les diverses formes de la domination, à condition de comprendre la domination pas seulement comme l'exercice d'un pouvoir, mais d'abord comme ces phénomènes d'exclusion, de désaffiliation, etc., dont je parlais tout à l'heure.